Maïlys Besserie, vous êtes écrivaine, journaliste et productrice pour la radio France Culture. Vous êtes née à Bordeaux et vous vivez maintenant à Paris. Vous êtes actuellement en Irlande pour la promotion du second volet de votre trilogie irlandaise, Les Amours Dispersés, Scattered Love, publié aux éditions Gallimard en France et aux éditions Lilliput Press en Irlande. Comment s'est déroulée votre rencontre, votre première rencontre avec l'Irlande ?
Je suis venue en Irlande pour la première fois en 1995. J'avais donc un peu plus de 12 ans et j'ai été envoyée en Irlande par mes parents pour apprendre l'anglais à Cork, plus exactement à Ballincollig, dans la banlieue. Et puis j'ai eu une espèce de coup de cœur, d'amitié incroyable pour la famille dans laquelle j'étais, qui étaient des très jeunes parents, qui m'ont accueillie à bras ouverts et avec lesquels j'ai noué une relation qui dure depuis. Qui sont devenus comme une sorte de seconde famille, de famille d'adoption irlandaise. Et donc j'ai commencé à aller en Irlande à partir de là, et j'y suis allée plusieurs fois par an depuis. Je me suis intéressée beaucoup à la littérature irlandaise, à la culture irlandaise, et donc j'ai noué beaucoup de liens là-bas. Et j'ai interviewé aussi beaucoup d'artistes irlandais grâce à ça, pour la radio France Culture. Et donc l'histoire avec l'Irlande n'a jamais cessé depuis.
Alors, le premier roman de votre trilogie, Le Tiers-Temps, Yell Sam If You Still Can, se déroule pendant les derniers jours de l'écrivain Samuel Beckett en France. Vous avez remporté le prix Goncourt du premier roman en 2020 pour ce roman. Le deuxième volet concerne le poète William Butler Yeats, qui est également décédé en France. Et le troisième, La Nourrice de Francis Bacon, qui vient de sortir en France, s'intéresse à l'enfance du peintre en Irlande, dans le comté de Kildare. Pourquoi avoir choisi ces auteurs et artistes ?
L'idée de parler de l'Irlande, c'était aussi de passer par un biais qui puisse faire un pont entre la France et l'Irlande. Donc Beckett, évidemment, c'était le parfait bilingue, c'était l'Irlandais qui a écrit en français, donc il y avait cette double culture naturelle, et ce travail d'écrivain fait depuis Paris aussi, donc c'était évidemment la figure qui s'imposait. Plus j'avais un amour immense pour cet écrivain, d'abord pour son théâtre et puis ensuite pour sa prose. Donc Beckett s'est imposé et dès que j'ai commencé à écrire le premier roman sur Beckett, le nom de Yeats est apparu à travers la figure de Jack Yeats, le peintre, qui était donc le frère de William Butler Yeats, qui était un ami de Beckett. Il était donc ami avec Jack, il appréciait beaucoup sa peinture, il a même fait l'acquisition de plusieurs œuvres de Jack Yeats. Donc il y avait ce lien assez fort. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter trois histoires entre la France et l'Irlande. Donc il fallait qu'il y ait toujours ce lien avec la France. Et c'est vrai que Yeats a atterri en France un peu accidentellement. Sa santé l'a obligé à partir justement dans le sud de la France, dans la région de Menton, Roquebrune-Cap-Martin. Et il est étrangement mort en France. Donc la figure de Yeats est apparue comme ça, avec cette idée qu'il y avait un trou dans la culture française, que Yeats n'était pas connu, alors même qu'il est connu partout dans le monde, que c'est le prix Nobel de littérature 1923, l'un des pères de l'indépendance de l'Irlande, et qu'il a une importance immense pour, pas seulement pour les Irlandais, mais pour toutes les personnalités de langue anglaise. Il a été connu pendant longtemps pour être le plus grand poète de langue anglaise, ou l'un des plus grands. Donc c'est une figure immense qui était très lacunaire en France. Donc j'avais envie de faire connaître Yeats en France à travers ce biais-là, tout en tissant toujours ses liens avec la France et cette étrangeté qu'il soit mort comme ça ici en France. Et puis Francis Bacon, l'idée c'était celle plutôt de faire, premièrement, d'écrire sur quelqu'un qui ne soit pas un écrivain, mais un autre type d'artiste, un peintre. Imaginez ce que ça serait que d'écrire comme lui a peint, hein, donc il y avait une espèce de défi nouveau littéraire pour moi. Et puis cette figure de la nanny, de la nourrice, qui elle-même a été exilée en Irlande d'une certaine manière, puisque la famille de Bacon s'est installée à County Kildare en Irlande, alors même que c'était des Anglais qui sont venus justement pour élever des chevaux de course en Irlande. Et donc Bacon est né comme ça en Irlande de manière tout à fait fortuite, hein, c'était pas du tout prévu, mais il était évidemment l'ennemi, l'Anglais, protestant, d'une famille en plus extrêmement en vue, puisque l'un de ses, enfin, son grand-père d'adoption était le chef de la police du comté de Kildare, donc une cible très importante pour l'IRA dans ces années-là. Et donc, c'est la figure de l'anglo-irlandais qui m'intéressait aussi. Et Bacon était absolument francophone, hein, francophile et francophone, parlait un français parfait, a vécu à Paris, a fait deux grandes expositions à Paris, et à chacune de ces grandes expositions, il s'est passé un drame dans sa vie. À chacune de ces grandes expositions, son petit ami de l'époque s'est suicidé. Donc la première fois, c'était Peter Lacy, et la deuxième fois, c'était George Dyer. Donc il y a eu deux événements majeurs de la vie de Bacon qui sont liés à la France, et en particulier à Paris. Et en même temps, c'est une autre Irlande qu'il transporte avec lui, c'est l'Irlande de la violence, hein. C'est l'Irlande perturbée par ces événements, cette guerre civile qui a duré des années et dans laquelle a été pris Francis Bacon enfant, entendant ce qui se passait de part et d'autre dans cette période où l'IRA était extrêmement active et où, de leur côté, les Anglais agissaient sur une répression extrêmement violente à l'égard des Irlandais. Voilà.
Dans Les Amours dispersés, Scattered Love, vous racontez l'histoire de la dépouille de William Butler Yeats. Yeats qui a été enterré en janvier 1939 en France, à Roquebrune-Cap-Martin, et ses restes qui ont été rapatriés à Drumcliffe dans le comté de Sligo en 1948. Mais il y a quelques années, des documents ont été découverts qui montraient qu'en fait, les restes de Yeats seraient mélangés à d'autres ossements, s'il y a des restes de Yeats dans ce qui a été enterré à Drumcliffe. Comment avez-vous pris connaissance de cette histoire incroyable ?
En 2015, il y a eu un article du Irish Times, écrit par Laura Marlowe, qui était correspondante à Paris, racontant cette histoire justement des restes de la dépouille mortuaire de William Butler Yeats, hein, mort en 1939, donc juste avant la guerre, qui devait être enterré de manière extrêmement temporaire dans le cimetière de Roquebrune-Cap-Martin, à Saint-Pancras. Donc c'est un cimetière absolument merveilleux, très beau, qui plonge directement dans la Méditerranée, en hauteur, où sont enterrées des grandes figures comme celle du Corbusier. C'est un cimetière absolument magnifique, méditerranéen, et il devait être enterré sur place parce qu'il avait le désir de ne pas avoir de funérailles nationales. Donc, il avait dit à sa femme, tu m'enterres là, et puis dans un an, quand on m'aura oublié, tu me ramènes à Sligo. Et il avait écrit ce poème testamentaire qui s'appelle Under Benbulben, qui est la grande montagne au mont plat de Sligo, en disant, voilà, quand le poète rentrera au pied de sa montagne. Et ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, puisque l'histoire a fait que la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée, qu'évidemment il était hors de question de rapatrier une dépouille ou quoi que ce soit, et qu'il y a eu besoin de place dans ce cimetière marin de Roquebrune-Cap-Martin pour les soldats morts au combat. Donc il y a une histoire tragicomique qui s'est nouée autour de cette histoire, c'est que, évidemment, en France, personne ne savait qui était ce poète irlandais dont il n'avait jamais entendu parler, prix Nobel, etc. Bon, voilà. Et donc il a été bien évidemment déplacé avec les autres dans une fosse commune. Et évidemment, on en est resté là. Sauf qu'en 1948, le ministre irlandais des Affaires étrangères se trouve être Sean McBride, le fils de Maud Gonne, la grande muse de William Butler Yeats. Et lui, la première chose qu'il fait, il laisse passer un peu de temps après la guerre, mais c'est de demander le retour du poète, du père de la nation. Ça a été... voilà. Et là, démarre toute une série de lettres diplomatiques avec les Français qui disent « Oh là là, ils veulent retrouver les cendres du poète, qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Donc il y a eu un échange de lettres entre le Quai d'Orsay, tous les diplomates en question, des gens sur place ont été envoyés pour essayer de faire une sorte d'enquête pour retrouver le corps de Yeats. Donc une histoire un peu comique, parce que qu'est-ce qu'on a fait du corps, quoi. C'est une sorte d'histoire étrange comme ça autour de ça. Et puis évidemment, ce qui était encore plus fou, c'est que la personne qui a retrouvé ces lettres diplomatiques, qui, évidemment les Irlandais n'en ont jamais entendu parler, mais il y avait quand même des soupçons dès l'arrivée du corps en disant « bah finalement, est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment le corps de Yeats qu'on nous a rapporté ?» Donc il y avait déjà des plaisanteries qui traînaient dès le jour des funérailles en disant « si ça se trouve, on est en train d'enterrer le pied beau d'un Anglais ». Donc il y avait des blagues comme ça, d'humour noir irlandais, qui traînaient dès l'enterrement. Et puis, ces lettres ont été retrouvées en France, par un homme qui s'appelle Daniel Paris et qui se trouve être le petit-fils de Paul Claudel. Donc ça, c'est quand même une histoire folle, c'est-à-dire que c'est le fils d'un des plus grands écrivains français qui est fils de diplomate, donc c'est voilà, qui se retrouve avec ses lettres dans le château de Claudel, qui retrouve ses lettres et qui voit qu'il s'agit de Yeats. Donc comme il est question de Yeats, lui donne les lettres aux Irlandais. Et donc les Irlandais ont eu confirmation qu'il y avait eu une sorte d'imbroglio diplomatique autour du corps de cette figure, de ce grand homme, de Yeats, etc. Donc autour de là, moi j'ai imaginé une enquête, qui est une sorte d'enquête faite par des gens du coin, des gens de Roquebrune-Cap-Martin, parce que comme il s'agit d'une fosse commune, évidemment il y a d'autres gens dans cette fosse, dont on parle jamais. Il est toujours question de Yeats, qu'est-ce qu'on a fait de Yeats, mais évidemment il y a des gens du coin qui ont été enterrés dans cette fosse commune. Et je me suis dit, mais finalement, j'imagine un groupe complètement révolté par cette histoire en disant, mais nos morts ont finalement servi à remplir le cercueil d'un Irlandais dont on n'a jamais entendu parler. Et ils sont révoltés par cette histoire et ils se mettent à faire des recherches. Donc ils se constituent en groupe qui s'appelle les dispersés. Et c'est une sorte de groupe un peu de pieds nickelés, quoi. Ils sont pas vraiment organisés. Ils démarrent leur enquête un peu comme ils peuvent, mais ils décident d'aller sur les traces du poète en Irlande et de demander réparation, de demander à ce qu'on analyse l'ADN du corps qui a été enterré à Drumcliffe. Et finalement, autour de cette histoire, c'est une sorte de quête initiatique. Ils finissent par se renseigner, tout découvrir de ce poète, mais aussi de l'histoire de l'indépendance de l'Irlande, puisqu'il est une sorte de figure fondatrice, en tout cas l'homme de lettres, qui a été mis en avant dans ce renouveau de l'Irlande celtique, donc dans ce passé retrouvé au moment où l'Irlande prend son indépendance vis-à-vis des Anglais.
Comment décririez-vous votre style d'écriture et est-ce qu'il est différent d'un roman à l'autre ?
Oui, d'un roman à l'autre, les choses sont très différentes parce que pour moi, la forme se met au service aussi du projet littéraire. Donc c'est vrai que le projet du premier roman, du tiers-temps, ce qui m'intéressait, c'était la forme du monologue parce que c'est une forme beckettienne par essence. Ce qui m'intéressait aussi, c'était d'écrire sur la vieillesse et que finalement de suivre ce flux de pensée à la fois ininterrompu et un peu tourmenté justement de cet homme à la fois de génie et qui devient un vieux monsieur qui peu à peu perd la mémoire et perd ses repères. Donc suivre ces mouvements de pensée comme ça, ça me plaisait beaucoup parce que ça permettait d'imaginer que la fin de vie pouvait être aussi un instant poétique avec un système assez fragmentaire d'associations d'idées, de métaphores, d'images. Il s'amuse de lui-même, de sa condition, de son état. Donc la forme, c'était celle du monologue. Et dans l'écriture, il fallait que je retrouve quelque chose de l'esprit beckettien, de cet humour noir, de ces formes courtes, sèches, de ces verbes à l'infinitif. Il y a quelque chose de la musique de Beckett qu'il fallait qu'on retrouve sans être dans le pastiche. Donc comme on ne sait pas la manière dont il se parlait à lui-même, j'avais une marge d'invention qui me permettait de m'inscrire dans sa tradition sans écrire du Beckett, mais qu'on puisse imaginer qu'il avait pu se parler de cette manière-là. Donc il y avait une sorte de travail d'imprégnation. Pour ce qui concerne Yeats, le travail était à la fois plus difficile et plus simple parce qu'il n'a pas vraiment de voix française. Autant Beckett, tout le monde connaît son écriture, autant Yeats, c'est vraiment la voix française qui lui manquait. Donc j'avais un travail d'imagination qui me permettait il me fallait que j'imagine l'équivalent français d'une voix yeatsienne. Donc la manière dont j'ai procédé, c'est comme Yeats est le poète des visions, d'ailleurs un de ses grands ouvrages s'appelle Visions, j'ai imaginé faire un travail beaucoup plus visuel que ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'en tant que femme de radio, je travaille beaucoup avec le son, les voix, j'imagine beaucoup la manière dont les gens parlent. Et donc ma manière d'appréhender les choses est très musicale et sonore. Et là, j'ai fait un autre travail d'imagination qui passait par la visualisation de ces paysages irlandais que j'avais en tête, des voix que j'avais en tête, des accents qui sont très différents d'un coin à l'autre, d'un milieu social à l'autre, la présence aussi de la langue gaélique, etc. Donc c'est un voyage visuel aussi que j'ai fait dans ma tête, qui m'a permis aussi de décaler mon écriture. Alors il me fallait aussi inventer une écriture qui soit à cheval entre le 19e siècle et le 20e siècle, donc il y avait un voyage dans le temps qui faisait que ma langue devait être imprégnée de cette, de cette distance dans le temps. Donc j'ai imaginé une sorte de voix hugolienne, puisque l'équivalent le plus proche, ça serait Victor Hugo, mais qui ne soit pas dans une tradition française et qui soit imprégnée du monde magique de Yeats, c'est-à-dire où la nature joue un rôle, mais aussi les esprits, tout ce monde invisible qui existe dans la tradition celtique. Donc, à travers cet univers dont j'étais très imprégnée en anglais, j'ai imaginé une écriture qui colle avec l'époque, et musicalement, ça a donné quelque chose de l'ordre de la superposition des conjonctions coordonnées. C'est-à-dire, j'ai cessé de faire des phrases relatives, comme ça, qui mais que, nanana, que ceci, que cela, etc. Donc, en donnant un rythme particulier de phrases longues, et qui étaient souvent des relatives. Et en travaillant de cette manière-là, il y a une sorte de rythme qui s'est imprégné dans mon texte qui me permettait d'énoncer beaucoup d'images. Et ces images se superposaient les unes aux autres, qui donnaient une sorte d'effet optique comme ça à la poésie. Et donc, petit à petit, la langue s'est teintée et s'est stylisée. Et pour emmener Yeats, pas simplement sa biographie, mais aussi son monde d'écrivain, j'ai fait rentrer dans cette écriture-là des images qui existent dans sa poésie. Il y a les cygnes, il y a l'oiseau doré qui chante, il y a des figures comme ça très importantes d'esprit, il y a les créatures celtiques auxquelles il fait allusion, les esprits qui se réincarnent, etc., dans la forêt. Donc j'ai fait rentrer ces images celtiques à l'intérieur de la langue, et donc pour qu'elles deviennent irlandaises, en fait, d'une certaine manière. Donc l'idée, c'était d'inventer une sorte de français irlandisé, teinté de cette Irlande-là. Il y a un terme en anglais, hein, hyper-English, une sorte de français hibernisé, comme ça.
Et pour Francis Bacon ?
Francis Bacon, c'est vrai que le travail était un peu différent, parce que le personnage central, c'est celui de sa nourrice, qui vient raconter l'enfance. Et cette nourrice, elle est anglaise, elle vient de Cornouailles, et donc elle est partie en Irlande pour devenir nourrice de Bacon. Donc ce qui m'intéressait, c'est qu'elle est extérieure à cette Irlande dans laquelle elle passe quand même de nombreuses années. Elle va passer à peu près 20 ans en Irlande. Elle est entre 15 et 20 ans, et elle est un œil anglais, hein, sur l'Irlande, avec au début un regard un peu méprisant sur ce qu'elle estimait des paysans, etc., parce qu'il y a une différence de milieu social important, et en même temps, très vite, elle se noue d'amitié pour les autres domestiques qui sont, eux, irlandais. Et donc, on voit que deux, trois personnages la fascinent, notamment par leur gentillesse, et puis par leur croyance. Hein. Il y a une des jeunes filles qui l'emmène voir une sorcière, qui l'emmène voir quelqu'un qui une guérisseuse, etc. Donc, très vite, elle est elle-même assez intéressée par les Irlandais. Et puis, les Irlandais qui demandent leur indépendance, etc. Il y a une sorte de respect, comme ça, pour cette lutte, quand même, interne, et beaucoup de tristesse pour justement ces violences dont elle est le témoin, avec en même temps une ambiguïté qui fait qu'il y a une peur à l'égard aussi de l'IRA. Donc elle est prise dans cette espèce de contradiction du pays à ce moment-là. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que elle succombe au charme irlandais tout en étant du côté de l'ennemi. Donc elle est dans une ambiguïté. D'un point de vue linguistique, il y avait une particularité, c'est qu'il fallait inventer une sorte de nanny talking. Donc c'est une figure à la fois très ancienne, la figure de la bonne, de la nourrice, etc., en littérature, mais il fallait imaginer une nourrice anglaise en français. Ça serait quoi cet équivalent ? Donc moi, comme je viens du sud-ouest de la France, j'avais en tête un parler régional qui m'a beaucoup servi, en fait, hein, nourri de beaucoup d'expressions populaires, avec à la fois ce décalage dans le temps permet un français un peu suranné, que moi je trouve très beau, et teinté en même temps de croyances un peu anciennes, quoi, un peu désuètes, que moi je trouve très belles. Et elle a sa petite philosophie sur les choses. C'est à la fois quelqu'un qui parle un français très châtié, parce que on parle bien avec madame, avec monsieur, etc., parce qu'il y a ce lien très fort avec les maîtres en tant que bonne. Et en même temps, elle a été très peu à l'école, elle a été trois hivers à l'école, et donc elle a un langage populaire, et la connaissance manque parfois, et ça l'empêche pas d'être un personnage éminemment intelligent. Donc il y a comme ça des espèces de trous dans un mot qui manque, un mot dit à la place d'un autre, ou une petite expression comme ça, toute faite, qui fait une langue populaire que je trouvais, moi, très intéressante à écrire.
D'accord. Et comment s'est déroulé le processus de traduction en anglais, donc avec Cleonani Reardon, qui est professeur en traductologie à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Donc comment ça s'est passé entre vous deux pour la traduction des trois romans, puisque je crois que Cleona, vous êtes en train de traduire le troisième volet, n'est-ce pas?
C'est tout à fait ça. Alors, le processus, c'est un processus un peu organique, c'est-à-dire que je traduis un premier jet. Quand il y a des questions, j'essaie de les regrouper pour ne pas harceler ma liste de questions. Et puis, on a eu les deux fois, et surtout pour le roman Scattered Love, des moments de lecture. Notamment, on était dans le train qui nous amenait de Limerick à Cork au mois de février dernier. On faisait une lecture côte à côte pour être sûr que cette question de rythme soit respectée. Parce que, comme Alice vient d'expliquer, elle écrit des phrases qui sont très longues et on est tenté en anglais de rajouter des and à chaque fois. Plutôt que d'avoir des phrases un peu superposées. Et pour Malice, le respect du rythme est primordial. Et donc, on a fait cette lecture l'une après l'autre pour faire en sorte que le texte que je produisais respectait le rythme du texte que Malice avait écrit à l'origine.
Après, on a des discussions aussi sur l'emploi de certains mots. Il y a des questions de registre. Donc là, par exemple, voilà, si on lit le premier extrait de Scattered Love, donc Les Amours Dispersés, moi je dis léché par les flammes, Cleona dit consumed, alors c'est des discussions, hein, tu peux pas dire léché par les flammes, tu peux pas dire licked, elle me dit bah non, on peut pas dire licked, voilà, mais moi je dis bah c'est quand même quelque chose, léché par les flammes, donc parfois c'est possible, parfois c'est pas possible, parfois c'est autre chose, et donc moi j'aime bien quand on trouve des nouvelles idées, et donc moi-même je dois lui poser plein de questions pour lui dire mais qu'est-ce qu'une dame de 90 ans dirait dans cette situation-là si on parle d'une vieille dame ou d'un vieux monsieur, ou qu'est-ce que dirait quelqu'un d'un milieu populaire, ça plus grossier que ça, plus vulgaire, moins, voilà, plus chic, etc. Et donc, parce qu'il y a une histoire de ressenti aussi, donc il y a évidemment la question de traduire le sens, mais dans la forme, certains termes, notamment argotiques du premier roman sur Beckett, du tiers-temps, étaient très importants parce que lui-même, il parle un argot qui maintenant est complètement désuet, donc c'est un argot de l'après-guerre, quoi. Donc, c'est des termes qui parfois, moi, me parlent comme un argot peut-être de mes grands-parents ou arrière-grands-parents, et Cleona, il faut qu'elle le comprend, mais elle va pas avoir le même ressenti. Moi, je disais, mais en anglais, ça serait quoi le mot? Et donc, elle-même, il faut qu'elle fasse référence à des choses qu'elle a entendues et qui seraient anciennes et qui correspondent à ce milieu social. On est dans un milieu protestant irlandais de telle période, c'est pas pareil. Donc, il y a une expression qu'il utilise, d'ailleurs, qu'on a utilisée en anglais dans les deux livres, enfin, dans les... même en français, hein, c'est Beckett qui tombe et qui dit « Sam has a whale of a time ». Donc il se le dit en anglais à un moment où l'anglais revient comme ça dans sa tête, et puis il explique tout de suite en français, voilà, sauf qu'il divague sur le terme « whale », qui évidemment, il utilise après dans le sens de baleine, ce qui n'est pas du tout le sens de « have a whale of a time », et « whale of a time », c'est une expression d'une certaine époque par une catégorie de la population qui ne serait pas du tout utilisée aujourd'hui. Donc il y a quand même une question où on s'interroge mutuellement pour faire appel à des souvenirs linguistiques qui correspondent à des personnes qu'on a pu rencontrer pour que ça colle. Donc il y a quand même un travail qui est très solitaire, où elle fait son premier jet, moi j'interviens pas du tout parce que j'estime que c'est elle qui a raison dans sa langue, mais après en relisant, quand je me pose des questions, on se questionne mutuellement sur certains mots, certaines expressions, sur des choses sur lesquelles on s'arrête chacune pour finaliser en fait la traduction.
Et ce qui est très intéressant, c'est comme il s'agit de figures historiques, à chaque fois on peut se documenter. Je pense que Miley s'est documentée quand elle a écrit ses romans, et moi par exemple pour le premier livre sur Beckett, pour trouver le registre argotique, ce qui était très précieux, c'était les lettres de Beckett, les quatre volumes des lettres, et pour Yeats c'était l'autobiographie, pour essayer de retrouver ce vocabulaire Et puis, il y a des références à certaines œuvres de Yeats. Donc, il faut trouver les références. Faut être sûr d'avoir choisi le bon terme qui correspond à l'époque de Yeats et au sentiment de Yeats.
Après, il y a aussi moi, j'aime pas du tout utiliser les expressions telles, disons, de la manière dont elles sont prévues au départ, quoi. Ça, j'aime bien les décaler. Donc, par exemple, j'enlève la moitié de l'expression où, je donne un exemple, la nanny de Bacon, hein, elle dit « Ah bah évidemment, on va dire que je mens comme une arracheuse. » Voilà, elle va pas dire comme une arracheuse dedans, elle s'arrête à la moitié. Donc Léona, bah, elle va se débrouiller avec ça aussi, hein, c'est-à-dire que parfois en anglais, c'est pas possible parce qu'on va pas comprendre la phrase. Ou alors, au lieu de dire, on va pas dire rusé comme un renard, on va trouver un autre animal. Donc, je vais utiliser l'expression en anglais. En français, je vais donner l'image anglaise pour utiliser l'expression de manière décalée en français. Donc, on va tout de suite comprendre que ça veut dire rusé comme. Mais je vais, voilà, et je vais utiliser l'anglais en français. Donc, par exemple, je pense dans Les Amours dispersés, hein, elle est fou comme le gardien du cimetière, qui est un personnage assez truculent, très décalé, assez marrant. Il dit mais vous allez vous dire que je suis fou comme une punaise de lit. Voilà, ça en français, donc ça décale le propos, et donc en anglais il va falloir faire le trajet inverse. Et moi ça me plaît beaucoup parce que ça, j'aime pas trop utiliser la langue dans son sens littéral. Donc le fait de passer par l'anglais à chaque fois permet aussi de changer la langue.
Ce qui est fantastique, c'est que toutes les deux vous parlez très bien les deux langues, l'anglais et le français, donc j'imagine que ça facilite le dialogue entre l'auteur et sa traductrice.
Oui, oui, c'est certain. Je pense qu'être plongée dans la vie française et parisienne depuis 30 ans maintenant, il est certain que quand je lis, je comprends la plupart des images. Il y a un parler régional qu'emploie Maïlys, parfois des expressions landaises que je ne connaîtrais peut-être pas forcément. Mais j'ai toujours Maïlys au bout de la ligne pour m'expliquer la chose.
En fait, c'est assez créatif parce que moi, je ne pouvais pas rêver mieux qu'une traductrice, pas seulement irlandaise, mais qui vient de Cork. Pour moi, c'était incroyable la rencontre avec Léona parce qu'elle vient de la ville dans laquelle moi j'ai appris l'anglais. Donc j'ai l'anglais en Irlande, voilà, avec des gens de la même génération. Enfin, pour moi, c'est merveilleux parce que je vois pas comment j'aurais pu travailler autrement. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qui sont tellement typiques dans l'humour noir irlandais, des choses qui sont éminemment culturelles et qui sont de l'ordre du ressenti. J'ai pas besoin de lui expliquer de quoi il s'agit. Donc ça, pour moi, c'est merveilleux parce que la langue, elle est toujours respectée dans son esprit. Donc je suis jamais inquiète, même si on n'est pas d'accord sur un mot. Je sais très bien que le roman, il va être totalement irlandais au final. Et donc moi, ça, pour moi, c'est formidable.
Et on a eu une expérience très intéressante. Maïlys a adapté le premier roman, Le Tiers-Temps, pour le théâtre. Et on a travaillé côte à côte pour faire une version anglaise. Et ça, c'était vraiment...
incroyable.
C'était comme un match de ping-pong linguistique.
Avec des moments quand même très drôles, parce qu'il y a des expressions... Par exemple, Beckett peut faire... mon personnage de Beckett, il peut faire des jeux de mots à caractère sexuel, etc. Puis alors, le mot « sein » avec à double sens en français, ça marche pas en anglais, donc on utilise « bombe » à la place parce que ça marchait mieux, etc. Donc on a beaucoup ri pour avoir des connotations comme ça, à double sens, y compris humoristique. Enfin, les blagues, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à traduire, hein, de retrouver cet esprit-là. Et c'est vrai que ça... C'était formidable pour moi qu'il y ait cette imprégnation et aussi cette idée de se représenter ce qu'est Beckett en Irlande. C'est très différent la conception qu'ont les Irlandais de Beckett, de la conception française. Évidemment, c'est la même chose pour Yeats, encore plus. Hein, les Français passaient à côté de Yeats, pour les Irlandais, c'est juste un monument. Et Bacon, ce qu'il représente aussi pour une génération qui a connu encore une Irlande extrêmement perturbée par ces guerres fratricides. Donc c'est vrai que c'est important de se rendre compte ce qu'il a traversé à une période où aussi, en tant que Britannique, il a été traversé par les deux guerres mondiales, ce qui n'est pas tout à fait le cas des Irlandais. Donc c'est une sorte de vécu comme ça qui a été traversé par une violence permanente qu'on retrouve aussi dans la peinture de Bacon, hein, qui est à la fois la peinture... de la violence familiale, puisqu'il avait un père extrêmement violent, mais aussi la violence qui était autour de lui et qui a justement habité son enfance, quoi, celle de la Première Guerre mondiale, la Deuxième, et au milieu, l'indépendance de l'Irlande et la guerre civile qui en a découlé.
Maïlys Besseri et Cliona Ní Riordan, merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.